Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump en grande difficulté dans les sondages à moins de 100 jours maintenant de l'élection américaine. Nombre d'électeurs lui reprochent évidemment sa gestion du coronavirus qui fait désormais des ravages également dans les États du sud des États-Unis, des États qui ont massivement voté Donald Trump en 2016. Alors, faute de bilan économique et sanitaire, le président américain joue désormais la carte de l'ordre. Il n'a pas hésité à envoyer des agents fédéraux à Portland pour rétablir l'ordre face aux violentes manifestations contre le racisme. À l'approche du 3 novembre, quelle est la stratégie de Donald Trump pour espérer gagner un second mandat ? Divisée, abîmée, l'Amérique se met-elle à douter d'elle-même, de son avenir pour mieux se replier ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir J-100. Trump peut-il encore gagner ? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Negaroff. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis, auteur de « L'Amérique et son président, une histoire intime ». C'est aux éditions Echo. Et puis cet été, on retrouve tous les jours votre chronique sur France Info. Il était une fois l'Amérique. Corentin Célin, professeur d'histoire en classe préparatoire, spécialiste des États-Unis. Vous signez une chronique sur la politique américaine sur le site lesjours.fr. Et puis je signale qu'on peut entendre votre série d'été intitulée « Président » sur France Inter. Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et en visioconférence, Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis, auteur du Monde selon Trump aux éditions Talendier. Thomas Negaroff, on commence avec vous et avec ce point sur les sondages. Donc tous les sondages le donnent perdant. Aujourd'hui, il a 6 à 15 points de retard. On est à 3 mois. Du 3 novembre, est-ce que quand même les choses commencent à se cristalliser ? En 2016, il était également en retard dans les sondages, hein, avant la victoire.
Oui, il a eu jusqu'à 10 points de retard dans les sondages nationaux. Alors, rappelons quand même, faisons toujours un peu de pédagogie, tous les 4 ans, il faut en refaire parce que tous les 4 ans, on a oublié. C'est pas les sondages comme en France, où vous avez des sondages nationaux qui comptent. C'est les sondages État par État, parce qu'aux États-Unis, on vote État par État, et ensuite, chaque État envoie un nombre de grands électeurs pour ensuite choisir le président des États-Unis. Et l'État, dans chaque État, celui qui arrive en tête, il gagne tous les grands électeurs de l'État. Parfois, ça se joue à très peu. Hein. En 2016, Donald Trump, vous l'évoquez, il a battu Hillary Clinton dans quelques États seulement qui ont fait basculer l'élection pour 60 000 voix au total. Donc, c'est extrêmement peu. Mais vous avez raison de dire qu'il y avait beaucoup d'avance pour Hillary Clinton qui a fondu comme neige au soleil, notamment dans la dernière semaine. Parce que n'oublions jamais ça. On dit toujours, oui, les experts se sont plantés, etc. En fait, jusqu'à très, très proche du scrutin, au mois de novembre, Hillary Clinton devait, je pense, l'emporter. Et puis, il y a une décision du FBI qui a rouvert une enquête sur les fameux emails. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, ouais. Mais ce qu'on appelle une surprise d'octobre, on n'est pas encore en octobre, mais aux États-Unis, il y a une espèce de fable, qui est pas qu'une fable, d'une réalité, qui est là où les surprises d'octobre, qui peuvent faire basculer les élections. Et en l'occurrence, c'était toute fin du mois d'octobre. Ça a fait vraiment bouger les lignes. Il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas voter ou allaient voter pour Hillary Clinton sans trop y croire parce qu'ils étaient plutôt défavorables à la personne en tant que telle, eh bien, sont allés massivement voter pour Donald Trump ou ne sont pas allés voter puisque c'est surtout l'absence, la faible participation qui a porté Donald Trump au pouvoir en 2016. Cette fois-ci, à 100 jours, vous avez raison, il y a un écart énorme. On n'a jamais vu ça. Allez, depuis 1988, lorsque Michael Dukakis avait 17 points d'avance sur Bush, le vice-président de Reagan, qui se présentait pour la présidentielle. On est à 100 jours en plus, hein, le 26 juillet. Donc là, c'était vraiment quasiment jour pour jour. Il avait 17 points d'avance. Sauf qu'entre-temps, après ça, il venait de se passer la convention démocrate qui avait donné un boost à Michael Dukakis. Après, il y a eu la convention républicaine qui a donné un boost à Bush. Et puis, ça s'était resserré. Je réévoquerai cette campagne parce qu'elle est, à mon avis, assez instructive pour ce qui se passe aujourd'hui avec la violence de la campagne de Bush contre Dukakis de l'époque, qui ressemble un peu à Biden par certains aspects. On y reviendra peut-être, mais sans faire trop d'histoire. Il faut juste, voilà, pour résumer, il y a beaucoup d'avance, mais 100 jours, ça peut sembler court, mais c'est long. Mais pour nuancer la nuance que je viens de faire, il n'y aura pas de convention ou pas une convention qui donne un boost comme en 1988. Il n'y aura pas de grand meeting. Donc, il va falloir cravacher et cravacher pour Donald Trump, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise d'octobre.
Il n'y aura pas de grand meeting à cause du coronavirus. Nicole Bacharan, est-ce que ça l'a mis quand même en danger, cette gestion du coronavirus ? Est-ce que ça le met grandement en danger en vue des élections du 3 novembre ?
Ah, mais sans aucun doute, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que Donald Trump avait, si j'ose dire, acquis sa réélection grâce aux chiffres florissants de l'économie. Et ma foi, ceux qui avaient voté pour lui ne se préoccupaient pas trop de sa personnalité qui, c'est vrai, pose quelques problèmes. Mais la gestion du virus, c'est vraiment la cause de cette dégringolade. Là, si on regarde juste gestion du virus, question de santé, là, ce n'est pas 10 ou 15 points d'écart qui séparent Trump de Biden, c'est 20 points. De 34% approuvent Donald Trump sur cette question, 54% approuvent Joe Biden. Et d'ailleurs, quand on regarde de plus près dans une petite ville, une communauté ici ou là, où malheureusement les gens ont été beaucoup touchés par le virus, avec des malades, parfois des morts, eh bien là, systématiquement, le soutien aux républicains baisse. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques jours, Donald Trump a un peu changé de pied en disant « il faut porter des masques, c'est patriotique de porter des masques ». Et puis, il a annulé la convention républicaine que certains appelaient déjà la convention coronavirus. Donc, il valait mieux, effectivement, y renoncer. Mais ce n'est pas du tout son instinct premier. On sait qu'il se fie à l'instinct premier. Et déjà, il fait pression à nouveau pour que Turner réouvre les économies, réouvre les écoles, et en disant même des choses comme « eh bien, il faut qu'ils réouvrent et puis on verra bien ce qui leur arrivera ». Où il a présenté une carte tout récemment où on voit évidemment les lieux où le virus est extrêmement actif. Il a eu cette phrase quand même grandiose, disant « le pays va très bien, à part le sud et l'ouest ».
Oui, donc à part la moitié du territoire, quoi.
C'est cela. Il n'est pas plus en prise avec ce qui est quand même un drame, cette pandémie, c'est la manière dont elle frappe particulièrement les Américains, et c'est cela qu'il paye aujourd'hui dans les sondages. Et
Sylvie Matelli, c'est vrai qu'il comptait s'appuyer sur son bilan économique. On sait que traditionnellement, on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'une élection américaine se joue sur l'économie. C'était Bill Clinton qui disait ça.
Carville, son conseiller. It's economy stupid.
Voilà. Là, pour le coup... Alors, là, il est mal passé. Moins 37% la croissance, je crois, en rythme annualisé sur les 2 mois de confinement, enfin,
oui, tout à fait,
deuxième
tout à fait,
trimestre.
Tout à fait. Alors, les chiffres sur l'année vont être moindres puisque le déconfinement s'est amorcé, mais il est évident. Et en plus, la grosse erreur de Donald Trump, c'est depuis le début de son mandat, de s'être très rapidement approprié le bilan de Barack Obama. Et il faut rappeler la séquence de réélection de Barack Obama. Barack Obama qui arrive en 2008 au pouvoir en pleine crise, qui prend le pouvoir en janvier, mais qui est en pleine crise économique, et qui, je crois que c'est fin septembre ou début octobre, avant sa élection, donc 2012, qui affiche un taux de chômage qui est inférieur à celui qu'il a connu quand il est arrivé au pouvoir. Donc, qui part d'une situation catastrophique et qui redresse très rapidement le pays. Dans le cas de Donald Trump, c'est tout l'inverse. Il est arrivé dans une situation florissante. Il s'est très rapidement approprié un bilan qui n'était pas le sien. Au bout de 3-4 mois, rappelez-vous, dès mi-2009, il expliquait combien il était génial et combien sa politique économique était formidable et avait relancé la croissance économique de ce pays. Jusqu'au mois de mars-avril, il a continué, même en mai, il a continué à affirmer que l'économie allait redémarrer très rapidement parce qu'il avait une politique économique tellement formidable que c'est pas le Covid qui allait faire tout ça.
De fait, il avait un bon bilan économique jusqu'au printemps.
Oui.
Bon,
oui.
Et ce bilan s'est écroulé, il ne peut plus capitaliser dessus.
Et à la différence de Reagan, en fait, dont les mesures politiques ont donné leurs conséquences négatives à l'économie bien après le départ de Reagan, pas de bol pour Trump, ce Covid arrive et finalement accélère très rapidement une économie qui était en très bonne santé en janvier-février, mais dont on percevait déjà des signes de ralentissement et d'affaiblissement. Donc il y avait déjà quand même des risques par rapport à ça qui se sont vraiment confirmés et amplifiés comme on ne pouvait pas l'imaginer.
Quentin, c'est vrai que Thomas Negeroff en parlait tout à l'heure, mais c'est toujours très bizarre pour nous parce que ce système américain où il y a ces 6 États clés qui basculent. Un coup, ils votent démocrate, un coup, ils votent républicain. Et donc, l'élection, au fond, est-ce que ces 6 États ont confisqué, ce sont eux qui ont les clés de la Maison-Blanche? Et alors là, on va voir une carte, on s'aperçoit qu'il y en a 3 qui, effectivement, donc c'est le Minnesota, je crois, la Floride et le Michigan, non, Pennsylvanie, Michigan et Floride, qui sont en train de basculer démocrate. Donc, au fond, quand on est politicien aux États-Unis, il faut juste s'intéresser à ces 6 États clés qui ont les clés de la Maison-Blanche.
Oui, alors c'est surtout vrai avec Donald Trump, parce qu'il ne faut jamais oublier que Donald Trump avait donc perdu le vote populaire assez nettement contre Hillary Clinton, mais il a gagné au collège électoral parce qu'en particulier, il a fait basculer 3 États, donc la Pennsylvanie, le Michigan et à l'époque le Wisconsin. qui votaient démocrates depuis très longtemps. La Floride, c'est un peu différent parce que la Floride, elle change. Bon, elle avait voté pour Bush, elle a voté pour Obama. Lui, il a fait voter trois États du Midwest, de la ceinture industrielle, traditionnellement démocrate. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de son maintien à la présidence dépend de sa faculté à défendre ces États-là. Cette nuit, Bloomberg, le média américain, a donné une statistique très intéressante. Actuellement, 90% des dépenses publicitaires de Donald Trump se passe dans des États qu'il a gagnés en 2016. Donc, il joue en défense. C'est-à-dire qu'il défend les États qu'il a gagnés, et en particulier ces trois-là. Pourquoi ces trois-là ? Parce que la Pennsylvanie et le Michigan, et a fortiori le Wisconsin, ce sont des États où il y a beaucoup de blancs non diplômés. Et malgré tout ce qu'on a dit, la Covid, l'effondrement économique, ces blancs non diplômés, dans les enquêtes d'opinion, ils restent fidèles à Donald Trump. C'est un socle de Donald Trump. Et lui, donc, il se dit... Je vais refaire 2016 et je vais parler en premier lieu à ces blancs non diplômés qui n'ont pas fait l'université de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin. Simplement, comme le rappelait Sylvie Matelli, il ne peut plus leur parler d'économie maintenant. Non, puisque on voit le taux de chômage, etc. Donc, il leur parle valeur, identité. C'est pour ça qu'il met le curseur, en particulier dans ces trois États, sur une sorte de défense de l'identité et des valeurs de l'Amérique blanche. Et il espère, comme cela, pouvoir conserver ses États. Mais effectivement, beaucoup de l'élection se jouera dans ces trois États. Sauf si Joe Biden arrive à ouvrir, lui, la carte électorale et à aller shipper des États, on pense en particulier à l'Arizona, au sud, qui votent traditionnellement républicains. Mais, j'allais dire, à condition égale, effectivement, tout va se jouer dans ces États pivots, et en particulier dans ces trois-là.
Alors, le Covid a fait 148 000 morts aux États-Unis. C'est le pays le plus touché au monde par le virus. Et Donald Trump peine toujours à enrayer cette épidémie. Même s'il semble avoir changé de stratégie en prenant finalement le port du masque, il paye cher sa gestion de la crise sanitaire. Il est aujourd'hui largement devancé dans les sondages par son rival Joe Biden. Reportage de Pierre Millet-Bellando et Erwan Nilion.
À Washington, le sprint final est engagé. Moins de 100 jours avant l'élection présidentielle, un moment capital pour Donald Trump, annoncé perdant, même par la chaîne Fox News, qui le soutient depuis 4 ans.
Ok, il reste encore 100 jours, mais à ce point-là de la course, vous êtes en train de perdre.
Alors déjà, je ne suis pas en train de perdre, ce sont de faux sondages. Ils étaient faux en 2016, et là, ils le sont encore plus.
Pourtant, les sondages se suivent et se ressemblent. Une synthèse des dernières semaines accorde à Joe Biden une avance de 9 points sur Donald Trump. Certains États-clés républicains au dernier scrutin pourraient même passer démocrates. C'est le cas de la Floride, de la Pennsylvanie ou du Michigan. Mais le précédent de la défaite d'Hillary Clinton, que les sondages annonçaient gagnante, pousse les experts à la prudence.
C'est encore tôt, tout peut changer. On voit que Donald Trump rejoue la même campagne qu'en 2016. Les déclarations choquent, les mensonges. Sauf que maintenant, c'est lui le président. Il est responsable de son bilan.
Si la popularité de Donald Trump bat tant de l'aile, c'est en partie à cause de sa gestion de la crise du Covid. Plus de 150 000 morts aux États-Unis, un record mondial, et un président passé de ça il y a quelques mois.
Je pense que porter un masque quand j'accueille des présidents, des premiers ministres, des dictateurs, des rois et des reines, je ne sais pas, ça semble bizarre.
Un raisonnement totalement différent aujourd'hui.
Quand vous ne pouvez pas avoir de la distanciation sociale, portez un masque, que vous l'aimiez ou non, ils ont un impact et ils auront un effet. Nous avons besoin de tout ce qui peut être utilisé.
Et alors que l'un des plus proches conseillers de Donald Trump a été testé positif au Covid, le président se montre masqué. Mais l'effort de communication arrive, selon certains, un peu tard. Outre les morts et les contaminations qui continuent, le pays semble déjà plongé dans une profonde crise économique. Rien que pour la semaine du 12 juillet dernier, 1,4 million de chômeurs ont fait des demandes d'allocation, un chiffre quasi similaire à celui de la semaine précédente. À New York, de longues files d'attente mènent aux banques alimentaires, souvent tenues par des églises. Ici, beaucoup n'ont plus le choix.
Oui, c'est dur. J'ai postulé à plusieurs endroits et non. On m'a dit que non, ils ne sont pas encore ouverts. C'est dur en ce moment.
Les structures associatives, elles, croulent sous la demande.
Les familles ont peur. L'argent ne rentre pas. Et tout le monde ne touche pas de droits s'ils n'ont pas de papier ou autre. Donc c'est une grave inquiétude. Beaucoup de ces familles viennent nous voir.
Tant d'éléments qui ouvrent une porte à Joe Biden. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche ne fait plus de meeting, mais soigne sa communication. Il y a quelques jours, il diffusait cet échange avec le plus grand de ses soutiens, Barack Obama.
Je pense que ce que vous et moi avions compris et ce pourquoi je pense vraiment que vous serez en mesure de lutter contre le Covid à la manière des autres puissances, donc de façon intelligente, je pense que vous écouterez les experts.
Joe Biden, lui, se présente en réunificateur de son pays, loin du personnage Donald Trump.
Les Américains ouvrent enfin les yeux et se disent « Ce mec a tout fait pour diviser le pays depuis le début. »
Si l'avance de Joe Biden dans les sondages semble stable, il lui reste à faire une annonce capitale. Le nom de celle qui sera sa vice-présidente en cas de victoire. Le candidat démocrate ayant promis qu'il s'agirait d'une femme.
Alors, question téléspectateur, Donald Trump peut-il tout simplement se retirer afin de sauver la face, Thomas Negaroff? D'autant que ce ne sera pas une partie de plaisir, on imagine, de gouverner le pays l'année prochaine.
L'expression est intéressante, hein. Sauver la face, il s'agit vraiment de ça. Est-ce qu'on doit la masquer? Est-ce qu'on doit la sauver? Est-ce qu'on doit se sauver en la masquant? Enfin, on peut jouer sur les mots, mais c'est intéressant parce que ça dit vraiment ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Alors, plus sérieusement, je crois que, sans entrer dans la psyché du personnage, on nous a tellement fait le coup. Il ne sera pas candidat. Il sera candidat en 2016. Hein. Il n'aura jamais l'investiture. Il va perdre contre Hillary Clinton. Ensuite, il sera cornaqué par le parti. Et maintenant, on nous dit, il va s'en aller, il ne va pas se représenter. Voilà, on nous l'a fait beaucoup, ce coup. Moi, j'y crois rien avant d'avoir vu. Je ne m'appelle pas Thomas pour rien. Hein. Ça, Thomas veut voir avant de toucher. Avant de voir.
Toucher.
On verra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça dit quelque chose. Parce que ce que notre téléspectateur nous dit là, on l'entend beaucoup aux États-Unis. Hein. Des éditorialistes importants disent il doit se retirer, il doit absolument. Parce que c'est une catastrophe, c'est chaotique, il est dangereux pour l'Amérique. Et ce qu'on a vu, effectivement, est intéressant. Et ça montre à quel point il s'est planté aussi sur sa stratégie. Parce qu'il a commencé, on l'a vu très bien, hein. Il a commencé en disant. On met pas de masque, ça sert à rien. C'était une forme de déni. Il y a deux manières de lire ce déni. Hein. Il y a une manière psychique, psychologique. Moi, je suis pas psy, j'en sais rien, mais de dire voilà, c'est du Trump. Il est refus de la réalité. Ce que je veux devient vrai. Donc, je veux qu'il n'y ait plus de coronavirus dans quelques jours. Il n'y en aura plus. Et comme je suis tellement puissant que ça arrive, tout ce que je veux arrive toujours. Bon, manifestement, ça s'est pas arrivé. Et le réel s'est réinvité et l'a percuté en plein visage. Visage désormais masqué. Mais il y a une deuxième manière de voir le déni qui est différente et qui, à mon avis, plus stratégique de sa part. Et là, c'est aussi une erreur qui est de s'être dit à un moment donné, OK, il y a ce coronavirus, mais je dois absolument rassurer le secteur économique de mon pays, la bourse par exemple, parce que, comme on l'a dit depuis le début, c'est là que se joue probablement ma réélection. Et donc, il a fait un mauvais calcul en se disant à un moment donné, OK, on va souffrir un moment, mais il y aura un V économique, ça va repartir. Et moi, le grand bâtisseur, je pourrai en novembre prochain dire... Vous n'allez quand même pas choisir Joe Biden, Sleepy Biden, pour relever votre pays, alors que vous avez un bâtisseur, c'est moi, qui sais faire. Je sais faire des buildings, je sais faire remonter l'économie américaine. Et donc, le déni dans les deux cas s'est affronté à la réalité. Dans un cas, 150 000 morts aujourd'hui. Dans l'autre, une crise économique extraordinairement forte. Et surtout, des Américains qui considèrent que leur premier facteur de vote n'est pas l'économie, c'est la crise sanitaire. Deux fois
ah,
plus.
Ah, c'est ça aujourd'hui.
C'est ça, tout à l'heure, vous avez dit, ça, c'est toujours l'économie. Bah, cette fois-ci,
c'est le sanitaire.
Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est le sanitaire. Jamais déconnecté de l'économique, mais c'est le sanitaire. 29% des Américains disent c'est le premier critère de mon vote.
Nicole Bacharan, est-ce que tout à l'heure, donc, vous disiez que le président américain disait le virus, maintenant, il frappe beaucoup le Sud et l'Ouest. Le Sud, si je ne me trompe, ce sont des États donc, qui ont voté Donald Trump. Est-ce que ce sont ces électeurs, un électorat âgé, qui aujourd'hui est rattrapé par le virus et paye finalement de sa propre peau la gestion du coronavirus de Donald Trump?
En tout cas, c'est vrai que l'électorat dit senior, et il y en a pas mal dans l'électorat de Donald Trump, c'est là qu'il perd des points, c'est là que ça s'effrite, parce que les gens, évidemment, sont vulnérables, sont touchés eux-mêmes, leurs proches, ils ont peur de l'être, ils ne sont pas sûrs d'avoir demain une bonne assurance médicale, et Donald Trump n'a pas apporter de solution à cette question de l'assurance. Donc là, il perd des points. Mais sur la question de l'économie, et Thomas a totalement raison de dire qu'on ne peut pas vraiment déconnecter le sanitaire de l'économie. Mais c'est une carte dont j'ai envie de dire, elle peut se retourner dans un sens ou dans l'autre. À l'heure actuelle, on a vu ensemble tous les mauvais chiffres de l'économie. On peut dire aussi qu'en mai et juin, on n'a pas encore les chiffres de juillet, l'économie américaine a recréé 7,5 millions d'emplois. Donc, d'ici le mois d'octobre, Donald Trump peut peut-être, en effet, se présenter comme le bâtisseur le mieux à même de relancer cette économie. Et puis, il est aux commandes. Donc, dans une campagne, on le voit tout le temps, alors que Joe Biden, malgré tout, a du mal à être présent. Et la faiblesse de Joe Biden, c'est que ce n'est pas un candidat qui suscite l'enthousiasme. Donc, au fond, le risque pour lui, c'est que, oui, les gens ont plutôt de la sympathie pour lui, oui, ils le préfèrent. Mais de là, vraiment, aller voter, particulièrement ces fameux seniors dont on parle et qui peuvent craindre de se rendre au bureau de vote, qui peuvent avoir des difficultés pour voter par correspondance, parce qu'il y a là-dessus tout un débat assez nauséabond, si vous voulez mon avis, mais enfin, là n'est pas tant la question. Et donc, Donald Trump, il lui reste des cartes à jouer. Je pense notamment à la possibilité, pas très lointaine, de nommer un nouveau juge à la Cour suprême, garantissant à ses chers électeurs évangéliques qu'il y aura toujours des juges anti-avortement grâce à Donald Trump. Et puis, il y a les fameux sondages. Thomas avait totalement raison de dire qu'ils ne se sont pas trompés tant que ça en 2016, puisque Hillary Clinton avait une forte avance, hein, près de 3 millions de voix à l'arrivée, malgré ce système électoral très particulier. Mais enfin, les sondages d'aujourd'hui, ils sont sur les électeurs inscrits et non pas sur les électeurs sûrs d'aller voter. Et il y a plein de gens qui sont sûrs d'aller voter aujourd'hui. Donc, Donald Trump garde des atouts dans son jeu.
Sylvie Matelli, Nicole Bacharan parle de l'image de Donald Trump comme un bâtisseur et ça pourrait être un atout sur le plan économique.
Vous
en
avez
vue
raison.
De... Et effectivement une économie qui pourrait repartir alors en V comme on dit.
Tout à fait, alors c'est ce sur quoi pariait Donald Trump au mois de mars-avril puisque c'est ce qu'annonçaient toutes les grandes organisations internationales et les principaux instituts de prévision économique. Et effectivement je crois que comme Thomas l'a très bien dit, il a essayé de rassurer la bourse et ça a fonctionné en fait. Ça ouais. a fonctionné puisque la bourse s'est maintenue à des niveaux extrêmement élevés, presque choquants vu la situation économique et l'augmentation du nombre de chômeurs aux États-Unis. La difficulté, c'est qu'il a été très rapidement rattrapé dès le début du mois de juin par la gestion calamiteuse de la crise sanitaire et en particulier un discours qui était très contradictoire d'un jour à l'autre ou même entre le matin et le soir suivant l'heure de la journée. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer aux États-Unis, c'est que c'est vrai, il y a des emplois qui sont créés, il va y avoir des semaines où des emplois vont être créés massivement, des restaurants vont réouvrir, les commerces vont réouvrir et réembaucher. Et puis la semaine suivante, dans l'État qui avait créé le plus d'emplois, en fait, il y a une annonce que la pandémie est en train de redémarrer et les gens sont renvoyés chez eux, les restaurants ferment, les commerces ferment. Et donc, on est plutôt dans une sorte de W ou dans une sorte de... Oui, tout à fait. Et 100 jours pour redresser une économie, ça paraît quand même très, très juste. Alors, encore une fois, ça peut aller très vite aux États-Unis. C'est une économie qui est extrêmement résiliente. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'éléments aujourd'hui qui permettent de dire que ça va être très compliqué pour Donald Trump. Alors, il peut, encore une fois, tout est aussi dans l'histoire qu'on raconte et qu'on sait raconter en politique. Hein. On peut avoir une économie qui est dans une situation catastrophique, mais si vous donnez de l'espoir, plus d'espoir que le candidat opposé, vous pouvez très bien être réélu. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il a perdu, mais la réalité d'un redressement de l'économie américaine dans les 3 mois qui viennent, parce qu'il faut intégrer dans tout ça, au-delà de la pandémie, il faut aussi intégrer les relations avec la Chine, les relations avec les Européens, la difficulté qu'il a à faire passer le plan de relance de cette économie américaine. Il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui laissent à penser que ça ne redémarrera pas en V comme on le pensait au mois d'avril.
Quentin Sénin, sur le style Trump, on l'a vu dans le reportage, il a dit « moi, le masque, je ne le sens pas devant les chefs d'État, devant les reines, les ministres, etc. » Comme si ça abîmait sa virilité. Ce style Trump, est-ce qu'il a toujours ses adeptes, ses fans, ou est-ce qu'il commence à lasser ?
Alors justement, c'est très intéressant parce que c'est vrai que il a beaucoup baissé dans les sondages d'approbation depuis 2 mois, et en particulier à cause de sa gestion de la Covid. Ça, c'est très net. Actuellement, dans le sondage historique Gallup, il est à 38%, ce qui est très faible. Hein. Aucun président n'a été réélu depuis Truman avec un taux d'approbation aussi faible. Cependant, si on regarde, ce qui est fascinant, c'est que les républicains, ils sont toujours à fond derrière lui. Autour de 90% toujours des républicains qui l'approuvent. C'est un tout petit peu moins vrai sur la gestion de la Covid, mais à peine, hein, c'est 80%. Bon. Ce qui nous montre que Trump, et ça a pu induire certaines des erreurs qu'évoquait Thomas, il ne faut pas oublier qu'il est enfermé dans une bulle, il tweet tout le temps, à regarder Fox News et maintenant OA2N, une chaîne encore plus conservatrice, encore plus radicale, qui répercute son récit. Il vit dans une sorte de chambre d'écho où il n'entend que son propre récit qui est en boucle. Et c'est vrai qu'une partie des États-Unis, il les a emportés dans ce récit et ils sont avec lui quoi qu'il fasse. On y revient toujours, mais en 2016, pour plaisanter, enfin quoique, il avait dit... si demain, il m'aime tellement que si demain je tirais sur quelqu'un dans la 5e avenue, tout serait OK pour moi. Bah, c'est pas loin de la vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça il faut jamais l'oublier, il garde son socle d'admirateur inconditionnel et qui aime en particulier son style. Et son style, outre effectivement le virilisme, l'affirmation de la masculinité qu'on avait vu contre Hillary Clinton en 2016, c'est aussi le fait de dire les choses sans filtre, de ne jamais se comporter, même comme président, comme un homme politique traditionnel. Et il joue beaucoup là-dessus contre Biden. Parce que Biden, lui, c'est l'archétype hein, de l'homme politique traditionnel. Il a 50 ans de mandat derrière lui. Et lui, il dit, Trump, il dit « Ouais, je suis peut-être président, mais je suis comme vous, je me comporte comme vous et je parle comme vous. » Il y a toujours cette revendication d'être un tribun en dehors du système. Alors maintenant, est-ce qu'il arrivera à élargir à partir de ce socle qui lui est fidèle, c'est toute la question. Est-ce qu'il n'est pas enfermé aussi, en quelque sorte, avec ce socle de fidèles autour de 40% de la population états-unienne ?
Il y a des fans, hein, Thomas Negaroff, Donald Trump.
Ouais, et ce qui est fascinant, et ça rejoint ce que dit Corentin, c'est qu'il a été élu grâce au biais cognitif, grâce à la bulle qu'il avait réussi à construire, où des gens se sont sentis à l'aise, relayant l'information. Les adultes, à l'époque, il y avait des enquêtes qui montraient qu'en 2016, les jeunes adultes américains s'étaient plus informés sur Facebook, et donc dans des silos d'informations hein, sur Facebook, que peut-être les gens qui nous regardent sont sur Facebook, j'imagine, beaucoup le sont.
On ne lit que ce qu'on veut lire. Hein.
On ne reçoit surtout que des informations qui vont dans le sens de votre opinion. Donc il a été nourri et il a été élu en pensant ça, en ayant conscience de cela, et donc en enfermant les gens dans une espèce de bulle cognitive. Mais aujourd'hui, il est enfermé dedans. Et c'est fascinant d'imaginer que peut-être il perdra en raison de la bulle qu'il a portée au pouvoir. Parce que cette bulle, et je rejoins ce que pense Corentin en termes de base électorale, elle se réduit tout de même et elle est aujourd'hui pas majoritaire à condition, et c'est à mon avis l'enjeu principal de l'élection présidentielle, que des gens qui n'ont pas voté en 2016, mais qui avaient voté en 2008 et qui avaient voté en 2012 pour les démocrates, se déplacent pour aller voter pour Joe Biden. L'enjeu, je le répète et je le répéterai jusqu'au 3 novembre, et d'ailleurs c'est l'enjeu principal, je crois, selon moi, c'est la participation au scrutin. Et d'ailleurs, Donald Trump ne cesse de dire qu'il faut absolument empêcher les gens de voter par procuration, de voter par correspondance. D'ailleurs, Twitter le sanctionne là-dessus, le censure là-dessus, parce qu'il sait bien qu'il l'a dit d'ailleurs de manière extrêmement claire. Corentin a raison, il parle de manière extrêmement libre. Il dit, si on permet aux gens de voter davantage, il n'y aura plus jamais de républicains élus.
Ah ouais.
Belle vision de la démocratie. Mais en tout cas, c'est...
Il faut qu'il y ait beaucoup d'abstention pour qu'on passe.
Exactement.
Alors, la mort de George Floyd le 25 mai dernier a provoqué une vague de protestations contre les violences policières et le racisme. Les manifestations se poursuivent et le climat se tend dans plusieurs villes américaines. Donald Trump, pour rétablir l'ordre, a envoyé à Portland des agents fédéraux. Reportage dans le nord-ouest des États-Unis. Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson.
Comme presque chaque nuit depuis deux mois, les rues de Portland s'embrasent. Les manifestants antiracistes tentent de renverser la barrière érigée autour du tribunal fédéral, devenu ici épicentre de la protestation. Une tentative vite réprimée hier par les forces de l'ordre. Des scènes devenues presque banales dans la ville contestataire.
L'autre soir, nous avons été touchés par un projectile en caoutchouc provenant de je ne sais où. Jusqu'à présent, l'expérience de la plupart des gens se résume à beaucoup de gaz lacrymogène.
C'est l'histoire qui est en train de s'écrire et je veux en faire partie.
George Floyd est mort en disant « Je ne peux plus respirer ». Il est donc de mon devoir d'utiliser tout mon souffle pour cette cause.
Face à eux, des agents fédéraux envoyés par Washington. La volonté d'un Donald Trump désireux de rétablir la loi et l'ordre. La nouvelle ligne sécuritaire de sa campagne présidentielle.
Je peux vous le dire, à Portland, ils ont fait un boulot fantastique. Ils sont là depuis 3 jours et ils ont vraiment fait un boulot fantastique en un temps très réduit, sans problème. Ils les attrapent. Beaucoup sont en prison. Ce sont les leaders. Ce sont des anarchistes. Il n'y a pas de manifestants. Les gens parlent de manifestants, mais ces gens sont des anarchistes. Ces gens détestent notre pays et nous n'allons pas les laisser continuer.
Une répression assumée par le président américain qui crée la polémique aux États-Unis. Selon les médias locaux, plusieurs manifestants auraient été emmenés de force dans des camionnettes banalisées par des policiers fédéraux sans badge d'identification visible. De quoi exacerber les tensions.
Ça, ça dit les fédéraux dehors maintenant. On ne veut pas que les fédéraux venus de l'extérieur occupent notre ville et terrorisent nos communautés.
Depuis des jours, Donald Trump le martèle. Le déploiement de ses agents fédéraux est surtout la conséquence de villes mal gérées par ses adversaires politiques.
La police locale n'a pas fait son travail. Je pense qu'on leur a dit de ne pas le faire. Mais nous avons la situation bien en main. Nous avons pris des mesures très fortes et nous regardons ce qu'il se passe ailleurs aussi. Quand vous voyez ce qu'il se passe dans ces villes tenues par les démocrates, toutes tenues par des démocrates, à chaque fois, cela vire au chaos. Et nous faisons en sorte que cela change.
À Portland, le maire démocrate Ted Wheeler a d'ailleurs lui-même fait l'expérience des gaz lacrymogènes la semaine dernière. Au milieu de la foule, l'élu local fustige l'usage de la force par ceux qu'il désigne comme l'armée du président.
Nous sommes en première ligne ici, à Portland. Si nous ne parvenons pas à faire en sorte que l'administration fédérale fasse marche arrière et quitte notre ville, ça se produira partout aux États-Unis, mettant en péril la Constitution.
Les manifestations, une manière pour Donald Trump de cibler son rival démocrate dans ses clips de campagne. Joe Biden les appelle des manifestants pacifiques, dit cette publicité, qui moque le soi-disant laxisme de l'ex-vice-président. Joe Biden, qui réagit par communiqué aux événements de Portland.
Nous avons un président déterminé à semer le chaos et la division. Il aggrave les choses au lieu de les améliorer.
Le chaos qui semble gagner plusieurs villes des États-Unis. À Seattle, des débordements ont éclaté le week-end dernier lors d'une manifestation. Au même moment, à Louisville, dans le Kentucky, des militants noirs lourdement armés ont protesté contre la mort d'une femme tuée par la police en mars dernier. Un climat tendu qui se multiplie dans le pays. Donald Trump l'a déjà promis, il n'hésitera pas à envoyer des renforts.
Alors, question téléspectateur. En envoyant les troupes fédérales, Trump donne-t-il un signe à son électorat qui veut de l'ordre dans les rues ? Thomas Negaroff.
Ah ben clairement. Et pas que son électorat. Il espère ici aller convaincre et sortir de cette fameuse bulle qu'on évoque depuis tout à l'heure. Parce que pour l'électorat indépendant, plutôt blanc, qui voit les images qu'on a vues à la fin, c'est des images qui terrorisent. De voir ces hommes armés sur des marges d'un bâtiment officiel, c'est une angoisse absolue. Après, à quoi joue Donald Trump ? C'est la question. Est-ce qu'il active les tensions pour ensuite apparaître comme le seul rempart, et le rempart patriotique ? Parce que quand on l'écoute, il dit tout à l'heure, ces gens-là n'aiment pas l'Amérique.
Détestent l'Amérique.
Détestent l'Amérique. Sous-entendu, je suis le seul dépositaire du patriotisme et de l'amour de la nation. On est sur un discours à la fois des valeurs, mais surtout de la loi et de l'ordre, prenant un mot important de Richard Nixon en 1968. On est exactement là-dedans. Et quand j'évoquais au début de l'émission l'élection de 1988, George Bush père, bien conseillé par Lee Atwater et Roger Ailes, celui de Fox News quelques années plus tard, qui allait fonder Fox News quelques années plus tard, eh bien, ces gens-là vont cibler Dukakis, qui avait donc 17 points d'avance sur Bush, à peu près 100 jours avant le suffrage, et vont montrer la faiblesse de Dukakis face au crime. Et le grand slogan de l'époque de 1988 était « We can't afford that risk ». On ne peut pas prendre ce risque. Et finalement, qu'est-ce que va nous faire Donald Trump pendant 3 mois ? Ça va être de montrer que l'Amérique de Biden, c'est une Amérique cataclysmique, le carnage américain qu'il dénonçait en 2016, Donald Trump, aujourd'hui, il veut le mettre sous le dos de Joe Biden, en oubliant qu'il est quand même président depuis 4 ans. Mais donc, ça va être de dire, vous les Américains, peut-être vous me détestez, mais entre la peste et le choléra, vous allez choisir quoi ? Est-ce que vous allez choisir le désordre pour vos enfants ou l'ordre ? Et moi, ça me fait penser à un roman de T.C. Boyle qui s'appelle America, que je conseille à tout le monde de lire. On est dans une communauté dans le sud des États-Unis, des gens blancs qui sont très progressistes. Et puis tout à coup, dans une communauté qui a peur des migrants. Et puis tout à coup, il y a les chiens qui sont tués par des coyotes. On commence à avoir peur. Eh bien, les très progressistes, ils se rangent du côté des autres et font ériger des murs autour de leur lotissement blanc dans le sud des États-Unis. C'est ça qu'a Donald Trump en tête, faire peur aux électeurs blancs, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, pour leur dire « Attention, si vous ne votez pas pour moi, en face, c'est le désordre. » Et d'une certaine manière, il rejoue le même discours qu'en 2016, alors qu'il est encore président, ce qui est assez malin de sa part.
Nicole Bacharan, c'est vrai, on assiste à une bipolarisation de la vie politique américaine, avec d'un côté donc un Donald Trump qui se radicalise, qui joue la carte de la loi, et de l'autre côté, des partis d'opposition qui aussi tiennent un discours de plus en plus, à gauche. Je dis ça parce que le New York Times, il y a une polémique au New York Times en disant l'opposition devient tellement dure et radicale qu'on ne peut plus être dans la nuance. Et le New York Times, qui est anti-Trump, hein, dit qu'il a beaucoup de mal maintenant à écrire des articles nuancés. Il appelle ça la cancel culture. Alors expliquez-nous de quoi il en retourne un petit peu.
La cancel culture, c'est un petit peu ce qu'on a appelé le politiquement correct, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire que, par exemple, au New York Times, le directeur de la section Tribune, donc qui publie des collaborateurs extérieurs, il a dû démissionner après avoir publié la tribune d'un sénateur ultra-conservateur qui appelait justement à l'intervention de l'armée dans les rues. Je pense par exemple à un professeur de Harvard qui est très nettement ce qu'on peut qualifier d'un progressiste, un démocrate relativement à gauche, mais dont, contre lequel plutôt, il y a des pétitions qui circulent appelant à sa démission parce qu'il manque de sensibilité à l'égard des questions raciales. Donc il n'a pas tenu des propos qui aient offensé qui que ce soit, mais il manque de sensibilité. Et c'est vrai que cette question-là, on la retrouve dans les maisons d'édition, on la retrouve à la télévision, on la retrouve sur les réseaux sociaux.
Il n'y a plus de place pour la nuance dans le débat américain. Il faut être radicaux, que ce soit à droite ou à gauche, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et c'est vrai que Joe Biden, qui n'est pas un radical, on peut se demander comment il peut unifier, au fond, le camp anti-Trump, qui est assez vaste, alors qu'il y a ces divisions internes. On l'a souvent dit, Donald Trump n'est pas responsable de la crise de la démocratie américaine, même s'il l'a beaucoup accentuée. Mais moi, ce qui me frappe dans cette difficulté du débat, dans cette radicalisation, dans ce désir de Donald Trump d'avoir des images militaires dans les rues, cet appel à la loi et l'ordre, c'est que j'entends de plus en plus avec mes interlocuteurs aux États-Unis, d'un côté et de l'autre, le terme de guerre civile. Non pas qu'on soit au bord de la guerre civile, bien loin de là, on n'en est pas là, mais on voit quand même des images de guérilla, dont Donald Trump se sert beaucoup. On sait que sans arrêt, il appelle ses supporters, à se défendre, à se méfier des élections truquées, de la fraude électorale, à défendre le deuxième amendement, celui qui permet de porter des armes. Et donc on se dit comment vont réagir ces gens si Donald Trump perd l'élection. Et côté opposant à Trump, j'entends beaucoup de gens qui ont peur que justement ça tourne mal à l'issue de l'élection si Donald Trump perdait l'élection.
D'autant qu'il a dit, permettez-moi, je vous interroge juste, mais il a dit qu'il n'était pas sûr de reconnaître ça. On lui pose la question, pourriez-vous ne pas accepter les résultats au soir du 3 novembre ? Réponse de Donald Trump, je dois voir, je ne vais pas simplement dire oui. Il pourrait contester le résultat des élections américaines au soir du 3 novembre ?
C'est ce qu'il laisse entendre, très clairement. Et c'est vrai qu'il parle déjà au sujet du vote par correspondance de fraude par des millions de soutiens des démocrates. Le directeur national du contre-espionnage américain a souligné, il a averti des manœuvres sur les réseaux sociaux de la Russie, de la Chine et même de l'Iran pour projeter le chaos dans cette élection. Donc au fond, on peut se dire que la démocratie américaine, peut-être parce que ses institutions ne sont pas prêtes à gérer l'influence étrangère, les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'elle est encore capable d'organiser l'acte fondamental d'une démocratie, c'est-à-dire une élection dont le résultat soit incontestable et légitime?
Mais Corentin Sellin, c'est vrai qu'on a l'impression que la démocratie américaine, elle ne s'exprime plus, elle ne s'exerce plus via les partis traditionnels, mais elle s'exprime sur les réseaux sociaux, via des mouvements, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit MeToo ou que ce soit Occupy Wall Street sur le plan économique.
Oui, alors déjà, c'est dû à la nature du bipartisme états-unien, qui ce ne sont pas des partis, j'allais dire, idéologiques, des partis de masse comme on les connaît en Europe, ce sont des machines électorales qui se mettent en mouvement, surtout tous les 4 ans au moment des présidentielles, un petit peu moins au moment des midterms, avec une direction nationale qui est assez effacée par rapport aux différents partis locaux. Donc ce ne sont pas du tout, ça n'a jamais été des partis, j'allais dire, au sens où on l'entend en Europe. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ces deux partis sont en crise. Premièrement, le Parti républicain a été pris par surprise par Trump, qui a transformé un parti, on va dire, conservateur, très libéral en matière d'économie, en un parti nationaliste ou nativiste, anti-immigration. Ça s'est fait au détriment, justement, des cadres du parti. Hein. Trump, il s'est imposé contre le parti. Et en face, on a un parti démocrate, il faut quand même insister là-dessus, qui a désigné Joe Biden dans des conditions extrêmement particulières, avec une fin de primaire complètement bouleversée par l'épidémie de la Covid, et qui n'a pas vraiment résolu la césure profonde qui était apparue entre, j'allais dire, le social-libéralisme traditionnel qu'incarne Biden après Obama, Clinton, et face à ça, une gauche radicale qui était incarnée par Bernie Sanders, qui est très populaire dans la jeunesse et qui, elle, est très anti-parti, anti-sortant, on dirait en France dégagiste, et qui, bon, s'est ralliée à Biden parce qu'il faut bien, lutter contre Trump. Donc on a deux partis qui sont en crise et qui n'arrivent plus, effectivement, à contrôler l'expression des idées. Mais c'est, je dirais plus, là encore, le problème, on en a un peu parlé, Nicole en a un peu parlé, c'est plus le problème de Biden. Parce que Biden, il a vraiment maintenant un problème, c'est que son principal argument, surtout qu'on le voit très peu, c'est « votez pour moi et comme ça, vous n'aurez pas un deuxième mandat de Trump hein. ». Il ne dit pas grand-chose d'autre pour l'instant. Ce qui fait qu'il a rassemblé une coalition qui va de républicains modérés jusqu'à l'extrême-gauche radicale. Sauf que, évidemment, ça lui pose un problème énorme parce que dès qu'il va parler ou prendre position, ouais, par exemple, sur Portland, il peut fâcher les uns ou les autres. Et donc, pour lui, c'est très compliqué.
Hein, Sylvie Matelli, vous confirmez, sur le plan économique, il y a des jeunes qui se revendiquent socialistes maintenant aux États-Unis. Alors qu'avant,
oui,
c'était une insulte. Hein.
Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est vrai que la question n'a pas été réglée par le Parti démocrate, puisque Joe Biden a été quelque peu choisi par défaut dans un contexte particulier. Et je pense que c'est aussi à ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut interpréter la difficulté qu'il a à annoncer sa colistière, en réalité. C'est que il ne sait pas comment se positionner et il hésite énormément. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la société américaine n'a jamais été autant polarisée et que Donald Trump gagne ou qu'ils perdent, on sait d'ores et déjà que la suite va être compliquée en fait et que les émeutes ne vont pas s'arrêter à cette élection.
Thomas Negaroff, les États-Unis d'Amérique qu'on appelle la première démocratie du monde, cette démocratie elle est quand même fragilisée et en fait ce qu'on croyait être acquis est en danger.
Oui, elle est fragilisée par tout ce qu'on a dit, mais elle est fragilisée depuis longtemps en fait. Quand Obama a été élu en 2008, vous avez quasiment immédiatement des Américains, une bonne partie des Américains qui ont considéré que ce président n'était pas légitime. Quand Donald Trump a été élu, une bonne partie des Américains ont considéré que Donald Trump n'était pas légitime. L'un parce qu'il ne serait pas né aux États-Unis, l'autre parce qu'il a eu moins de votes, au vote populaire, que Hillary Clinton. Donc ça fait quand même pas mal de temps que le résultat même d'une élection présidentielle n'est pas accepté par l'ensemble des Américains, qui est quand même le cœur même. Nicole parlait de ce moment essentiel dans une démocratie qui est une élection. Ça pose quand même des difficultés majeures. Et ça dit effectivement à quel point le pays est divisé. Les divisions aujourd'hui sont abyssales. Et je souhaite un bon courage au futur président des États-Unis parce qu'il va hériter, comme Donald Trump, peut-être même un peu plus que comme Barack Obama, d'un pays ultra divisé sur les valeurs, sur l'avenir. Vous savez, quand on évoquait la difficulté de Biden de trouver autour de lui une coalition puissante, forte et unifiée, c'est aussi parce qu'il a du mal à définir ce que les Américains appellent une vision. Quelle est la vision de Biden pour l'Amérique? Qui peut la définir? Absolument personne. Bill Clinton, qui avait battu George Bush, en 92, qui pourtant se représentait, on peut dire c'est à peu près comparable, Clinton, c'est une vision extrêmement claire pour l'Amérique, qui voulait projeter l'Amérique dans le deuxième millénaire. Là, honnêtement, on a du mal à l'imaginer. Alors, il a quand même réussi, pour un peu nuancer quand même cette idée d'un Biden qui serait perdu, il a quand même réussi à avoir autour de lui des jeunes figures du parti, type Alexandria Ocasio-Cortez, qui travaillent sur le plan notamment vert, enfin écolo. Il a autour de lui des gens, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver une cohérence et une vision qu'un président doit incarner, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, il avait une vision très claire en 2016 et il a une vision très claire aujourd'hui.
Alors, hier d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, c'est vous qui me l'avez appris, a repris cette expression de Barack Obama qui disait que Donald Trump n'était pas la cause des difficultés américaines, mais en était le symptôme. Et quel est ce malaise américain ? Eh bien, c'est que pour la première fois depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, le leadership américain est contesté par la Chine. Chaque jour, la tension semble monter d'un cran entre Américains et Chinois. Hong Kong, Huawei, coronavirus, les sujets qui fâchent ne manquent pas pour Washington. Quand Pékin fustige l'ingérence des États-Unis, c'est un sujet de Walid Berissoul et Aurélie Saner.
Les autorités américaines leur avaient donné au maximum 3 jours pour faire leur carton et quitter cette antenne diplomatique de la République populaire de Chine, au Texas. Un lieu que la Maison-Blanche accuse d'être une plaque tournante de l'espionnage sur le sol américain et dont les employés sont soupçonnés d'avoir cherché à en détruire les preuves par le feu, selon ces images filmées par des voisins. De quoi justifier encore un peu plus cette décision peu diplomatique du président Trump.
À l'avenir, il sera toujours possible de fermer d'autres ambassades, car vous voyez bien ce qu'il se passe dans celle qu'on vient de fermer. On a cru qu'il y avait un incendie, tout le monde disait « il y a le feu, il y a le feu ». J'imagine qu'il devait brûler des papiers, des documents, dont je me demande bien ce qu'ils contenaient.
La réponse de Pékin n'a pas tardé, à 13 000 km de Houston. La bannière étoilée ne flotte plus sur le consulat des États-Unis à Chengdu. Le bâtiment a été repris hier par les autorités chinoises. La bataille des consulats, un nouveau front, vient de s'ouvrir entre les deux grandes puissances rivales du 21e siècle.
J'espère que ça ne va pas tourner à l'affrontement. Nous devrions chercher la paix, c'est la meilleure issue possible. Le monde n'a pas besoin de guerre, il a besoin de paix.
Une nouvelle guerre froide. Le chef de la diplomatie américaine a longtemps récusé ce terme. Il appelle désormais à former une coalition mondiale pour contrer la menace, dit-il, que représente la Chine.
Le président Nixon avait dit autrefois qu'il craignait d'avoir créé un Frankenstein en ouvrant le monde au Parti communiste chinois. Eh bien, nous y sommes. Le président Trump a été clair. Nous avons besoin d'une stratégie qui protège l'économie américaine et notre style de vie. Le monde libre doit triompher face à cette nouvelle tyrannie.
Sanctions américaines contre représailles chinoises à Hong Kong, comme sur la question de la minorité musulmane ouïghour et sur le bannissement du géant technologique Huawei. La mécanique du conflit s'est accélérée ces dernières semaines.
Les États-Unis ont choisi de s'opposer ouvertement à 1 milliard 400 millions de Chinois, à s'opposer ouvertement au peuple chinois, qui représente 1/5 de l'humanité.
Donald Trump avait pourtant un autre plan en tête que de déclencher une nouvelle guerre froide. En 2016, le businessman s'était présenté sur la promesse d'arracher un deal à Xi Jinping. Objectif partiellement rempli en janvier dernier.
Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante qui n'a jamais été franchie auparavant avec la Chine.
Après des mois de guerre commerciale à coup d'augmentation des tarifs douaniers, les deux pays avaient conclu une première trêve. Et le président américain avait promis à ses électeurs d'en obtenir davantage.
Je vais vous dire, je pense que d'une certaine manière, c'est mieux d'attendre après la prochaine élection pour un accord avec la Chine.
Aujourd'hui, exit Trump le négociateur, place à l'affrontement. Mais dans la course à la Maison-Blanche, la volonté d'en découdre avec la Chine anime également le camp démocrate.
J'ai passé plus de temps avec Xi Jinping que n'importe quel leader dans le monde quand j'étais en poste. C'est un type qui n'a pas une seule once de démocratie en lui. Ce type est un voyou qui détient 1 million de Ouïghours dans des camps de travail qui sont en réalité des camps de concentration. C'est un type dont tout le monde voit ce qu'il est en train de faire à Hong Kong et je vais dire les choses clairement, ils doivent respecter les règles. Un point, c'est tout.
Accusé par le camp Trump de faiblesse, voire de complaisance, le candidat démocrate Joe Biden menace la Chine de nouvelles sanctions économiques s'il est élu président des États-Unis.
Alors, question téléspectateur, Trump a-t-il tout intérêt à poursuivre l'escalade entre les États-Unis et la Chine ? Sur le plan politique, c'est payant ?
Oui, alors, c'est très payant pour une raison, ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est détestée dans l'opinion publique américaine par les républicains, mais aussi par les démocrates. Donc, c'est un thème bipartisan où Trump peut aller gagner de nouveaux électeurs. Par exemple, dans une étude qui a été faite par le Pew Research Center au printemps 2020, on voyait que 62% des démocrates ont aujourd'hui une opinion défavorable de la Chine. Alors, c'est plus haut chez les républicains, pour qui la Chine, c'est vraiment maintenant l'ennemi absolu, mais les démocrates aussi. Donc, Trump, il a intérêt, parce que ça peut lui permettre de gagner de nouveaux électeurs. Et en plus, là, en période de la Covid, où lui, en plus, a ce récit que c'est un virus qui vient de la Chine, etc., il peut jouer sur un très vieux ressentiment qui remonte au 19e siècle dans la population états-unienne contre les Chinois, contre les Asiatiques. Et ça, ça peut être extrêmement payant électoralement. La question, c'est est-ce que c'est aussi stratégiquement avantageux ? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Mais politiquement, oui, c'est quelque chose parce que ça résonne dans l'opinion publique. Autre problème, est-ce qu'il est la meilleure personne pour faire ça ? Parce que pourquoi il ferait ça politiquement ? Ça lui permet de dire... Regardez, Biden, c'est l'emblème même de cette classe politique qui, pendant des années, vous a dit « on va commercer, on va faire du libre-échange ».
Quand il était vice-président de Barack Obama. Exactement. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a affublé d'un surnom, il l'appelle « Beijing Biden ».
Voilà, exactement. Il va en faire l'emblème d'une classe politique qui aurait copiné avec les Chinois en promettant que, par le libre-échange, la Chine viendrait à la démocratie. On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien, par exemple, à Hong Kong. Mais le problème, c'est que Trump est-il le meilleur messager pour ce message ? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant la plupart des 3 années dernières ? Il a copiné avec Xi Jinping, il l'a appelé le grand leader, le grand chef, et selon Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale, il lui avait même demandé s'il ne pouvait pas lui filer un coup de main pour être réélu. Donc, c'est un message qui peut être payant politiquement. Est-ce que Trump est en situation de le délivrer ? Ça, c'est une autre interrogation.
Sylvie Matelli, si Donald Trump interdit Huawei aux États-Unis, c'est parce que Huawei espionne ou c'est parce que Huawei est devenu le premier équipementier mondial en matière de télécom? Et ça, Donald Trump ne le supporte pas, que ce soit les Chinois qui soient les meilleurs maintenant en équipement télécom.
Alors évidemment, l'un entraîne l'autre très clairement, mais c'est sûr qu'on est dans une logique de préservation d'un leadership économique et préservation aussi d'un monde dont les règles économiques et la gouvernance économique étaient au service des intérêts américains. Donc très clairement, Donald Trump joue gros sur ce coup-là et c'est quelque chose qui parle aux Américains, où la fabrique de l'ennemi est de toujours se trouver un ennemi à l'étranger, que ce soit les Soviétiques, les Japonais en son temps, et puis les Chinois avec une histoire autour de ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par contre, la réalité économique est tout autre, et c'est là-dessus que c'est très compliqué pour Donald Trump. Alors, Dieu merci pour lui, on est à 100 jours des élections, 3 mois, ça passe très très vite. C'est qu'au fond, quand vous regardez les statistiques économiques, le pays qui a le plus profité de l'émergence de la Chine ces 20 dernières années, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis, et en particulier les secteurs de progrès aux États-Unis, le secteur du numérique, d'où aussi Huawei. Et si Huawei existe, c'est en grande partie parce qu'il y a eu de fortes implantations et de forts investissements américains en Chine dans ce secteur-là. Donc, il faut qu'il fasse très attention aussi, Donald Trump, parce que la reprise économique aux États-Unis, elle dépend aussi de la Chine. Et c'est en cela qu'il était là, il cherchait un accord avec les Chinois au mois de janvier. Alors, on peut imaginer une séquence où le ton se durcit pendant 3 mois, et puis s'il est réélu, il ira se chercher des alliés du côté chinois, et ça s'assouplira peut-être un petit peu. C'est ce qu'avait déjà fait Obama précédemment, avec pas uniquement la Chine, mais un certain nombre de pays où le ton s'était fortement durci en fin de premier mandat, pour finalement aller chercher des négociations et des accords avec des partenaires potentiels.
Thomas Stegaroff.
On parle de guerre froide. Est-ce que l'expression est juste ?
On a parlé de guerre civile tout à l'heure aux États-Unis. Maintenant, on parle de guerre froide.
C'est intéressant. Ça montre à quel point les enjeux sont tendus aujourd'hui dans le monde. On a entendu ce Chinois qui espérait que la paix soit universelle. On peut tous l'espérer. Quelle est la grande différence avec la vraie guerre froide ? La grande différence avec la vraie guerre froide, c'est que pendant la guerre froide, on pouvait être dos à dos. Il y avait très peu d'interdépendance entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, c'est impossible, si vous le rappelez il y a un instant. Quand on regarde le déficit abyssal commercial des États-Unis à l'égard de la Chine, une bonne partie est en fait réalisée par des entreprises américaines qui produisent en Chine et qui réexportent vers les États-Unis.
Comme Apple.
Comme Apple, comme Nike, comme plein d'autres. Dans l'habillement, il y en a beaucoup, des entreprises de ce type-là. Je crois qu'en revanche, ce qui est un peu inquiétant, c'est, alors un truc, c'est un peu la tarte à la crème en géopolitique, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. C'est quand on relit la guerre du Péloponnèse, on voit bien qu'il y a une puissance dominante qui est Athènes et qui, parce qu'elle craint l'émergence d'une puissance qui pourrait la rattraper, Sparte, déclenche une guerre et il y a une guerre entre les deux. Et c'est peut-être ce qui est un peu en train de titiller les États-Unis, c'est de voir la Chine rattraper les États-Unis. Effectivement, les États-Unis adorent avoir des ennemis auxquels ils confèrent une puissance extraordinaire, la Chine en l'occurrence ici, qui d'ailleurs, quand on regarde les enquêtes américaines, c'est très intéressant. Les Américains sont persuadés que la Chine est beaucoup plus riche que les États-Unis, beaucoup plus puissante économiquement et militairement que les États-Unis, ce qui est très 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 loin d'être le cas. Les Américains dépensent encore 4 à 5 fois plus chaque année pour leur armement qui est des fois déjà aujourd'hui bien plus puissant et moderne. Mais il y a cette impression et cette crainte d'être dépassé en permanence par les Chinois. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette idée-là, c'est qu'il y a un domaine en particulier dans lequel les Américains ont peur d'être dépassés, qui d'ailleurs nous renvoie à la guerre froide, c'est le domaine technologique. La guerre pour l'espace avec l'URSS, et aujourd'hui, c'est clairement la question technologique. Vous citiez Huawei. Derrière Huawei, il y a quoi ? Il y a la 5G. Et à Chengdu, à Houston, le consulat fermé par les Américains, ils accusaient les Chinois de faire de l'espionnage industriel et technologique. C'est ça aujourd'hui le vrai enjeu. Tout le monde nous dit que c'est la guerre commerciale. Ce n'est pas vrai. Trump est assez malin pour faire plier la Chine sur la question commerciale, parce que les Chinois ont besoin d'exporter vers les États-Unis pour gagner la guerre technologique. Et si on veut reprendre la métaphore de la guerre froide, il y a quand même un terrain d'affrontement technologique aujourd'hui. C'est nous, c'est l'Europe, autour de la 5G, et c'est là que ça se joue aujourd'hui.
Nicole Bacharan, ce malaise de la société américaine qu'on retrouve également en Europe, c'est cette impression qu'au fond, c'est la Chine qui devient la première puissance économique mondiale et que nous, on s'est fait avoir, qu'on n'a plus de boulot et qu'on leur a tout donné. Et donc, il y a une crispation contre ça.
Oui, il y a une crispation contre ça. Je voudrais dire un mot du consulat chinois fermé à Houston. Vous savez que le Texas et Houston particulièrement, ça a été ma ville et mon État pendant très longtemps. Et je peux vous dire que tout le monde savait que ce consulat chinois était un nid d'espions. Il n'y a pas eu de révélation, révélation là-dessus. D'autre part, les reproches que Donald Trump et son équipe adressent à la Chine à l'heure actuelle et qui sont partagés en partie dans le camp démocrate, ils sont partagés par l'Australie, par l'Inde, par le Canada et par toute l'Europe sur les pratiques commerciales, sur le pillage de la propriété intellectuelle, sur la question de Hong Kong, sur la question des camps où sont enfermés les Ouïghours, sur les avancées territoriale, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de routes maritimes de la Chine en mer de Chine du Sud. Donc tout cela, ce n'est pas une invention électorale, si j'ose dire, de Donald Trump, mais en effet, il n'est pas le meilleur messager pour s'opposer à tout cela, puisqu'il a rendu les États-Unis très faibles, au fond, dans cette confrontation, puisqu'il a abandonné le partenariat transpacifique qui réunissait les pays voisins de la Chine. Il a secoué les alliances avec les Européens. Il a totalement décrédibilisé le respect de la loi internationale, puisqu'il est le premier à la totalement. Donc c'est un mauvais messager, mais sur des questions qui sont totalement réelles. Et quand Joe Biden dit « Je vous assure que Xi Jinping n'a pas une once de démocratie en lui », il a totalement raison. On a affaire à un président à vie. Et quand j'entends dans le reportage que l'on vient de voir que Donald Trump s'oppose à 2,5 milliards de Chinois, ça veut dire qu'en Chine, on considère qu'il y a 2,5 milliards de Chinois qui pensent tous pareil. Et franchement, je trouve ça glaçant.
1,5 milliard, hein. Alors, tout de suite, on revient à vos questions.
1,5 milliard de Chinois.
Ils sont nombreux, les Chinois, mais quand même. Alors, question téléspectateur. Y a-t-il toujours des manifestations anti-masques et anti-confinement aux États-Unis ? Question de Michel en Charente-Maritime. Est-ce que c'est d'ailleurs toujours politique, le coronavirus aux États-Unis ? Il disait que le masque était démocrate et la chloroquine de droite.
Au fond, ça n'a jamais été vraiment le cas. Je crois qu'on a exagéré quelques mouvements qui existaient par-ci, par-là. Il y a eu des gens anti-masques, il y a eu dans des supermarchés des gens qui mettent tout par terre parce qu'on leur demande d'enlever le masque. Il y en a aussi chez nous. Ouais. Mais on a exagéré. Et ça rejoint un peu le piège dans lequel Trump tombe aujourd'hui. C'est que, voyant lui arriver ça de ces médias qu'il adore et sur lesquels il passe sa journée entière, eh bien, il voit ça et il se dit « ça, c'est ma base électorale ». Et c'est certainement pour cela. Et c'est en ça que OAN ou Fox News l'induisent largement en erreur parce qu'il est persuadé qu'une Amérique défend, et un peu comme en 1918, la Ligue anti-masque de San Francisco, mais c'est 3000 personnes, c'est rien du tout. Et donc, c'est la mauvaise gestion de la crise, elle vient certainement d'un biais cognitif. On est tous, nous, sujets à des biais cognitifs. On adore ce qui nous renforce, ce qui nous renforce nos certitudes. Ben lui, ce qui renforce ses certitudes, c'était de voir des gens qui allaient dans l'Ohio arrachant leur masque en disant « on ne veut pas de masque, on est pour Trump ». Sauf qu'il a cru que c'était l'Amérique de Trump, c'était que un tout petit bout de l'Amérique de Trump.
Quelles sont les colistières pressenties par le Parti démocrate, Quentin Célin ?
Alors, déjà, rappeler que ce sera une colistière, hein, puisque c'est un engagement fort qu'a pris Joe Biden. De toute évidence, il devra aussi, enfin, il est fortement incité à choisir, après tout ce qui s'est passé, après les manifestations, une colistière issue des minorités. Parce que on comprendrait mal dans un parti démocrate qui est devenu celui du multiculturalisme, qui a défendu justement l'émancipation des minorités, et dont en particulier la minorité africaine-américaine représente aujourd'hui le socle électoral majeur. On comprendrait mal que on se retrouve à 100 personnes issues des minorités sur le ticket. Partant de là, évidemment, il y a un nom qui circule beaucoup, c'est celui de la sénatrice de Californie, Kamala Harris, qui a participé, sans grand succès, il faut bien le dire, à la primaire, sauf qu'on sent bien qu'il y a une hésitation sur sa personnalité pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle s'était opposée très violemment à Joe Biden pendant les primaires, donc pour y avoir des images de débat en particulier qui seraient ressorties par le camp Trump. Deuxièmement, elle est connue pour être pour viser la place du dessus, et un président, il n'aime pas trop avoir un vice-président qui guigne la place. Donc, il y a peut-être une petite réserve sur Kamala Harris. On parle également beaucoup de Susan Rice, qui est l'ancienne conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, donc qui est une personne avec un parcours absolument remarquable, une expertise en matière de politique étrangère tout à fait formidable et avec laquelle Joe Biden a un lien assez fort. Mais le problème de Susan Rice, c'est qu'elle n'a jamais été inélue, hein, c'est ce qu'on appellerait une techno chez nous. Et enfin, on parle beaucoup de jeunes élus, de plutôt jeunes élus afro-américaines locales, par exemple la mairesse d'Atlanta, qui pourrait, ou la représentante Demings de Floride, qui pourrait incarner justement une nouvelle génération africaine-américaine. Le problème pour celle-ci, que ce soit Bottoms, la mairesse d'Atlanta, ou Val Demings, c'est qu'elles sont souvent issues de la même branche sociale libérale centriste que Biden. Et là,
il y a un doublon politique.
Et là, les partisans de Sanders ne seraient pas très contents.
Un vaccin efficace et immédiatement disponible sauverait-il Trump ? Et Nicole Bacharan, j'ai envie d'ajouter, il faudrait qu'il soit américain, parce qu'imaginez le vaccin chinois. Je pense que ça contrarierait... non, mais pour le coup, ça serait la matérialisation que la première puissance technologique au monde, ça n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Imaginons que le vaccin
soit chinois. En tout cas, il y a des chances que Donald Trump annonce un vaccin très proche juste avant l'élection. Thomas, au début de l'émission, parlait des surprises d'octobre, qui généralement sont des dossiers fort peu ragoûtants qui sortent pour démolir l'adversaire. Mais peut-être que Donald Trump, lui, aimerait avoir une surprise d'octobre qui soit, disons, allez, 10 jours avant l'élection, d'annoncer un vaccin. Parce que là, dans ces cas-là, il ne sera pas, si vous voulez, mis à l'épreuve des faits. On ne saura pas encore si c'est vraiment efficace, si les Américains et d'autres feront confiance. Donc ça pourrait l'aider. Je ne sais pas si ça peut faire une élection, mais ça pourrait être un point pour lui d'annoncer ce vaccin dont évidemment il s'attribuerait tout le mérite.
L'affrontement entre la Chine et les États-Unis peut-il dégénérer en conflit armé ? Thomas Negaroff, on sait que ça chauffe en mer de Chine.
Ça chauffe régulièrement en mer de Chine méridionale. Oui, l'histoire... on a toujours l'impression que les guerres appartiennent au passé, en fait. Et on voit les guerres une fois quand elles sont face à nous. Il y a un magnifique documentaire de Ruth Zilberman qui est passé sur France Télévisions, qui racontait l'été 1939. Et à l'été 1939, dans les journaux intimes des gens, il n'y avait pas de guerre. La guerre n'était pas là, sauf quelques visionnaires, des gens qui sentaient les choses. Ben, en général, la guerre, c'est quand on l'a devant les yeux hein, qu'on sait qu'il y a la guerre. Apollinaire, quand il est en Normandie et qu'il revient tranquillement à Paris, il sent, ça y est, il ne croyait pas deux jours avant, et puis il revient parce qu'il y a mobilisation générale. Il se dit, mon ancien monde est en train de disparaître. Donc, la réponse que je peux vous donner, elle n'est pas intéressante de mon point de vue de ce que je peux penser, moi. Juste, la guerre, on sait qu'elle est là quand elle est là. Et honnêtement, personne ne peut dire qu'il n'y aura pas de guerre entre les États-Unis et la Chine, même s'il y a des interdépendances très puissantes, il y en avait aussi avant la Première Guerre mondiale, même s'il y a une arme nucléaire qui peut aussi jouer un rôle, une dissuasion qui peut jouer à plein. Espérons-le.
Michelle Obama, vice-présidente, point d'interrogation. Alors, Nicole Bacharan.
Non, je n'y crois pas du tout. Elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas se lancer en politique. Elle a même laissé entendre qu'elle avait horreur, en fait, de ce monde-là.
Mais elle est très populaire, n'est-elle pas ?
Elle a une popularité formidable. Elle est plus populaire que son mari, plus populaire qu'aucune figure politique aux États-Unis. Il suffirait qu'elle se présente pour que sa popularité chute fortement, parce que se lancer dans l'arène politique, c'est autre chose que d'être une figure charismatique, emblématique, et qui agit sur le plan culturel, familial, social. Mais vraiment, aussi tard dans la campagne, une femme qui a toujours dit qu'elle n'irait pas, entre guillemets, je n'y crois pas.
Où en sont les relations diplomatiques entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Corentin Célin? On a l'impression que c'était tendu à un moment.
Alors, ils se sont parlé il y a quelques jours. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a beaucoup surpris, parce qu'il y a eu quand même une révélation il y a quelques semaines sur le fait que le renseignement états-unien avait depuis un an environ des renseignements, des informations sur le fait que la Russie aurait offert à des talibans des primes pour abattre en Afghanistan des soldats états-uniens. Or, il se trouve que dans la conversation avec Vladimir Poutine, Donald Trump, visiblement, n'a pas parlé de ce point. On en revient toujours, vis-à-vis de Poutine. Trump, très clairement, en 2016, voulait faire une sorte de reset, de repartir à zéro avec une relation qui était vraiment extrêmement tendue après la présidence Obama. C'était son choix, il l'avait présenté démocratiquement aux électeurs états-uniens, sauf que Donald Trump ne semble pas comprendre qu'aujourd'hui, évidemment, après toute l'affaire russe, où il a été soupçonné, mais ce n'a pas été établi, d'avoir une collusion avec l'ingérence de la Russie, il ne comprend pas que toute sa relation avec Poutine est scrutée d'extrêmement près. Donc, il dit, lui, qu'il est le président le plus ferme qui n'ait jamais existé avec la Russie, sauf qu'on constate que, par exemple, là, il n'évoque pas le sujet qui fâche, ou que la seule chose qu'il ait proposée ces derniers temps, c'était de vouloir absolument réintégrer la Russie dans le G7-G8, dont elle a été exclue après 2014. Voilà.
La meilleure chance de Donald Trump, finalement, n'est-elle pas d'avoir Joe Biden comme adversaire, Nicole Bacharan?
Non, je ne crois pas, parce que Joe Biden, c'est vrai qu'il n'est pas flamboyant, charismatique, il n'incarne pas le renouveau, mais c'est un homme respecté, respectable, que très peu de gens détestent, au contraire de, on sait, de Hillary Clinton, c'était la faiblesse, justement, la hargne qu'elle avait suscitée dans une partie de l'opinion. Donc cet homme-là n'est pas le candidat rêvé, mais c'est un candidat solide face à un personnage comme Donald Trump, justement parce qu'il veut incarner la solidité, le respect de la médecine, la raison et le bon sens.
Eh bien voilà, verdict le 3 novembre, mais on y reviendra d'ici là. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, merci de l'avoir suivi. Rediffusion ce soir à 22h40, vous restez sur France 5. Bonne soirée et à demain.